Bonjour à tous. Alors, je suis censé vous dire deux ou trois mots. Cela m'est quand même très difficile. Moi, je suis le directeur de la BPI, de la Bibliothèque publique d'information. Je ne suis pas un spécialiste de littérature et encore moins un spécialiste de Nabokov. Que dire avant la conférence de Maurice Couturier, hein ? Ce serait ridicule de ma part que de me lancer dans une véritable introduction de la journée. Ceci dit, j'aurais deux mots quand même à vous proposer. D'abord, il me semble que l'œuvre de Nabokov est peuplée d'élus. Ada était une élue. Et par conséquent, je dois vous dire que la Bibliothèque publique d'information est très heureuse, vraiment très très heureuse et très fière, eh bien, je ne dirais pas de faire partie des élus, mais d'être accueillie par vous dans le cercle des chercheurs enchantés. C'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur. Par ailleurs, et j'en discutais il y a quelques instants avec Maurice Couturier, je reviens d'un énième colloque qui avait lieu hier en Suisse sur l'avenir du livre, l'avenir des bibliothèques et sur le numérique. Et nous avons beaucoup glosé sur la textualité numérique, sur la néo-textualité numérique. Et je dois dire que moi qui suis, en tant que bibliothécaire, extrêmement intéressé par l'évolution de la textualité, l'émergence de nouvelles formes d'écriture et de lecture, je dois dire qu'en même temps, je réfléchis beaucoup et je m'intéresse beaucoup, bien sûr, à la spécificité du livre, du livre en tant qu'objet, en tant que capsule de sens et de texte qui aura circulé pendant quelques siècles à travers la planète. Et je ne peux m'empêcher de penser, et ce que je vais vous dire est tout à fait banal, j'enfonce des portes ouvertes, que la forme ultime, la forme majeure de cette textualité livresque, eh bien, effectivement, c'est le roman, c'est la littérature, et plus précisément la forme romanesque de la littérature. Et je ne peux m'empêcher de penser, moi qui suis un lecteur de Nabokov, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'aime beaucoup l'œuvre de Nabokov, que l'œuvre de Nabokov porte à son maximum l'effet romanesque de la textualité livresque, si je puis dire, en ce sens que, et je vais utiliser une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, en ce sens que dans le roman en général, et a fortiori, et c'est porté à son maximum chez Nabokov, la courbure de l'espace-temps, en quelque sorte, je prends une métaphore, ça n'est qu'une métaphore, la courbure de l'espace-temps est portée au maximum dans chacun des romans, dans la plupart, disons, des romans de Nabokov. Il est intéressant de voir, cela a été beaucoup dit, les spécialistes que vous êtes le savent mille fois mieux que moi, que chaque détail chez Nabokov diffracte en quelque sorte la totalité de l'œuvre enclose dans l'espace-temps du roman. C'est une des caractéristiques, me semble-t-il, de Nabokov. Et cette diffraction qui fait penser, et je vais utiliser une autre métaphore, à ce que l'on appelle les fractales, qui sont une forme de mise en abîme d'une totalité en elle-même, en quelque sorte, cet effet de diffraction qui me paraît être l'essence du roman, de la textualité romanesque, est à mille lieues de la tranche de vie que certains romans prétendent être ou de la tranche de texte que certains romans prétendent être. Et il me semble que nous sommes vraiment à l'opposé, par exemple, des petits jeux de la combinatoire oulipienne. Nous sommes vraiment à l'opposé d'une autre vision de la littérature qui, elle, rejoint les réflexions que l'on mène aujourd'hui sur le numérique. Autrement dit, Nabokov et son œuvre sont un point de, je dirais, de résistance dans le sens positif du terme à une évolution que nous vivons actuellement de la textualité. Cela me semble extrêmement important. Il me semble, dernier élément, que, et c'est comme ça que je ressens personnellement l'œuvre de Nabokov, que le fait que Nabokov pratique une forme d'aristocratisme, pas une forme, d'ailleurs un aristocratisme, privé de ses bases sociologiques, ne fait que rajouter à l'étrangeté scandaleuse de son œuvre, de ce qu'il écrit, et à travers lui, de la littérature romanesque elle-même. Donc, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, je suis vraiment très, très fier de vous accueillir. Il s'agit d'un colloque international. Je sais que de nombreux chercheurs enchantés du monde entier, de Russie, des États-Unis, sont parmi nous. Donc, je leur souhaite, bien sûr, un séjour à Paris et au Centre Pompidou le plus agréable possible. Je remercie plus spécialement, bien sûr, Lara de Lachetoriel, qui a accepté que ce colloque ait lieu chez nous, mais je remercie également Yannick Chupin et Agnès Edelroy, qui ont souhaité que la troisième journée ait lieu à la BPI. Voilà, donc merci à tous, et maintenant je passe la parole à la véritable organisatrice de cette journée.
Je suis loin d'être la seule. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et d'ailleurs, ce que vous dites à propos de Nabokov me permet aussi de, quelque part, d'introduire la société, puisque notre premier colloque, le colloque qui a en fait donné naissance à la société, s'appelait Kaleidoscopic Nabokov, ce qui rejoint toute cette idée de diffraction et de fractal, etc. Et je pense que même s'il est important que l'on resitue Nabokov dans un temps plus ancien, ce qui sera fait tout à l'heure par Tatiana Ponomareva, il est important aussi que Nabokov vive avec son temps. Et je pense que son œuvre, en fait, se marie très bien avec les nouvelles technologies, notamment Pearl Fire, et je pense qu'il aurait beaucoup apprécié tous les jeux que permet l'hypertexte, etc. Donc, même le fait d'utiliser des petites cartes, des fiches Bristol, était en fait une manière de pallier aux limites matérielles du livre et anticiper finalement le travail qu'on fait avec l'ordinateur. Donc en tant que présidente de l'association Chercheurs en Santé, Société Française Vladimir Nabokov, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici à la BPI, au Centre Pompidou, grâce donc à la BPI qui a bien voulu nous accueillir. Je pense que c'est pas moi qui ai accepté, c'est plutôt vous qui avez bien voulu nous accueillir. Alors, j'ai quelques mots à vous dire. Donc, c'est en fait le troisième jour de notre colloque qui est consacré aux relations que Nabokov a entretenues avec la France et vice-versa. Ce n'est pas tout à fait le dernier jour, puisque finalement, il y aura un petit appendice demain matin auquel vous êtes tous les bienvenus. C'est une promenade sur les lieux où Nabokov a vécu à Paris. Voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a des programmes à la sortie qui vous donnent les détails. En tant que présidente, j'ai la charge de vous faire un mot d'accueil. Je viens d'apprendre, je ne suis pas obligée de tenir 15 minutes, donc tant mieux, parce que je n'aime pas tellement les discours, ni les longs, ni les courts, ni les grands, ni les petits. Et donc, j'ai préféré adopter le mode épistolaire pour servir mon office et présenter l'un de nos deux invités d'honneur, qui est Maurice Couturier, qui va parler tout de suite après moi. Cher Maurice, tu nous fais le grand honneur de participer prochainement à notre colloque sur Nabokov et la France. J'espère que tu ne vas pas changer une nouvelle fois le titre de ton intervention. L'érotisme à la française de Vladimir Nabokov, car je le trouve particulièrement approprié. D'abord, nous connaissons tous le cliché du French lover. Et si celui-ci est un peu éculé, il n'est pas dénué de vérité. Et en plus, c'est un titre vendeur. Et Dieu sait si aujourd'hui, il est difficile d'attirer le plus grand public vers des œuvres aussi exigeantes que celles de Nabokov. L'érotisme est indéniablement un bon filon. D'autant plus que tu es expert, est-ce érotisme nabokovien, ayant déjà beaucoup publié sur le sujet, notamment avec ton ouvrage « Nabokov ou la cruauté du désir », mais également « Roman et censure » ou « La mauvaise foi d'Eros ». Et bientôt, je l'espère, « Nabokov's Eros », en anglais donc, que OUP a intérêt à accepter. En ce qui me concerne, ton affaire avec Nabokov commence peut-être justement et surtout avec cette qualité toute particulière que tu as saisie lorsque tu as découvert la version annotée de Lolita en 1970 sur un campus américain. Voilà, catholique en plus. Je veux parler du poérotisme nabokovien, mot-valise que tu as pour ainsi dire ourdi pour rendre la manière singulièrement poétique avec laquelle l'écrivain déploie l'érotisme dans ses romans. C'est d'ailleurs cette notion qui avait inspiré ma toute première intervention universitaire sur Nabokov, Fussy Aphrodite, The Sexual Crux in Nabokov's Later Novels, communication donc que je donnais à Cambridge, où je rédigeais à l'époque ma thèse sur Nabokov, et où j'analysais la manière dont Nabokov déploie les attentes qu'il a suscitées, déjoue les attentes qu'il a suscitées chez le lecteur. C'est d'ailleurs à cette même conférence célébrant le centenaire de Nabokov, donc en 1999, que je t'ai rencontré pour la première fois. À l'époque, tu étais en train d'achever le premier volume des œuvres complètes de Nabokov à la Pléiade. Lourde, magistrale et ambitieuse tâche que tu continues d'accomplir puisque tu travailles actuellement au troisième volume des œuvres complètes à la Pléiade. J'aimerais d'ailleurs que tu me dises comment tu t'en sors avec tes annotations sur feu pâle. N'as-tu pas parfois peur de devenir un Kimboat à la française? René pourra peut-être te seconder. Il est obsédé par le roman en ce moment. Bref, j'espère que tout ce travail sur Nabokov, les traductions, les pourparlers avec les éditeurs, les innombrables études critiques ne t'empêchent pas d'avancer sur ton prochain roman, puisque tu es également romancier. Sache que j'ai beaucoup apprécié le précédent roman, Ziyama, ainsi que ton récit autobiographique, Chronique de l'oubli, paru en 2008. Bref, au risque de prendre cette lettre pour un exemple de flagornerie éhontée, s'il y a une industrie française qui arrive encore à s'exporter à l'international aujourd'hui, c'est bien la haute couture. C'est pourquoi, permets-moi de t'appeler un grand couturier qui a su faire connaître au monde entier la finesse de la langue française, de la pensée française, des études littéraires françaises. Je n'ai pas signé, mais amicalement, Lara, et PS, n'oublie pas d'apporter ta clé USB pour le PowerPoint.
Bon, je pense que tout a été dit pour présenter la conférence. Donc, on va passer la parole à Maurice Couturier, qui est professeur émérite de littérature anglaise et américaine et qui va donc prononcer cette fameuse conférence sur l'érotisme à la française chez Vladimir Nabokov.
Je vais utiliser un écran, mais ne vous attendez pas à des images osées. Il faudra que vous fassiez usage de votre imagination pour, à partir des textes, éventuellement imaginer des images osées. Mais ce n'est pas le but recherché, bien évidemment. Nabokov, c'est peut-être lui qui m'a inspiré le titre de cet ouvrage sur la censure, « Roman et censure ou la mauvaise foi d'Eros ». Nabokov était, comme la plupart des grands écrivains, mais peut-être plus que la moyenne, habité par la mauvaise foi. Il disait un jour « Le sexe en tant qu'institution » En tant que concept général, le sexe, en tant que problème, le sexe platitude, c'est tellement assommant que les mots me manquent pour en parler. Laissons tomber le sexe. Déclaration complètement déroutante chez un auteur qui, plus qu'aucun autre, a écrit sur le sexe. Aucun autre grand romancier n'a évoqué à ce point les différentes phases d'une vie sexuelle, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse, ou inventorier un spectre aussi vaste de comportements sexuels, depuis la nymphomanie, la nympholepsie, l'inceste, le sadisme, l'homosexualité, et sans compter l'absence totale de désir sexuel, ou quasiment, dans La Défense Lougine, et dans certaines nouvelles aussi. Ce que voulait sans doute dire Nabokov, c'est que le sexe n'a jamais été pour lui un moyen facile de capter l'intérêt du lecteur libidineux, mais au contraire un puissant ferment de prouesse artistique. Ne fait-il pas dire à son personnage narrateur dans Lolita que le sexe est avant tout l'auxiliaire de l'art? Le regard qu'il porte sur ce sujet délicat n'est pas celui du clinicien, de l'anatomiste, du sexologue, encore moins celui du psychanalyste. On sait ce que Nabokov pensait de Freud. C'est celui de l'artiste qui puise dans les mille et une stratégies et facéties de l'être désirant et les fuites et esquives feintes ou réelles de l'être désiré, une source inépuisable de métaphores, de récits et de péripéties que son écriture poétique et euphonique a su draper d'un voile esthétique indéniable. En lisant ses romans, on a le sentiment qu'il a voulu faire du sexe et de ses pantomimes le défi ultime. L'érotisme n'est pas le sexe, n'est pas l'amour non plus, mais procède de l'un et l'autre immanquablement, même s'il prend parfois des détours dont l'un et l'autre semblent parfois être absents. Le roman moderne, qui traite majoritairement, sinon uniquement, de l'amour, est né à une époque où la large diffusion de l'imprimé permettait à l'écrivain de s'exprimer et de diffuser son texte. On sait à quel point d'ailleurs l'imprimé a joué un rôle dans la réforme, hein, entre autres par la diffusion des indulgences. Il a permis à l'écrivain, en partie, d'écrire dans le dos des autorités, mais celles-ci se sont vengées, bien sûr, et elles ont imposé une censure assez rigoureuse, qui d'ailleurs, à partir du XVIIe siècle, sera beaucoup plus importante en France qu'en Angleterre. En Angleterre, à partir de 1660, surtout à partir de la restauration de 1660, il y a une plus grande liberté. Donc le roman sexuellement explicite a tout de suite été une cible de cette censure. Je l'ai montré justement dans le livre auquel on faisait allusion tout à l'heure. Ce qui a contraint les romanciers les plus imaginatifs à inventer des stratégies sophistiquées pour en contrer les rigueurs. L'atténuation de la censure en matière de sexe dans les années 60, on sait très bien qu'aux États-Unis, d'ailleurs en Angleterre, il y a eu plusieurs procès autorisant par exemple la parution de Fanny Hill ou bien de l'amant de Lady Chatterley. À partir de ce moment-là, les verrous de la censure ont plus ou moins sauté. Et je prétends que peut-être ça n'a pas été fatalement une bonne chose pour le roman. Car finalement, une bonne partie des prouesses narratives, prouesses poétiques, étaient le résultat de ce combat que devait mener l'auteur pour contrer les rigueurs de la censure. L'érotisme en milieu littéraire doit, pour être efficace, faire l'objet d'un partage, pas toujours équitable, certes, entre l'auteur et son lecteur, travailler l'un et l'autre par leur surmoi. Nabokov n'aurait sans doute pas adhéré à ce que je viens de dire, parce que ça sent son freudisme à plein nez, et il n'aimait pas Freud. La délicate question à laquelle je vais tenter d'apporter un début de réponse, il faudrait au moins 3 livres pour traiter le sujet que je vais vous présenter ici, donc j'espère que ça donnera des idées à certains jeunes collègues, et il y en a toute une grande bande de très bons, d'excellents jeunes collègues qui, à mon avis, pourront faire un bon travail là-dessus. Sa pratique poérotique, le mot a été expliqué par Lara, est-elle totalement idiosyncratique ? Ou possède-t-elle des affinités avec l'érotique de certains romanciers qui l'ont précédé ? C'est la question un peu que je pose ici. Je vais en fait, grosso modo, étudier 2 champs et 2 auteurs en particulier qui ont précédé donc Nabokov. Le côté anglophone, représenté, mais je vais parler de d'autres auteurs aussi, par Joyce, et le côté francophone, représenté par Flaubert. 2 auteurs que Nabokov adoré. Je vais quand même essayer d'élargir un petit peu le champ. Donc, passons tout de suite à bref aperçu de l'érotique littéraire anglaise. La littérature d'outre-Manche a toujours été connue pour son puritanisme. Ça ne l'a pas empêché d'évoquer le sexe de manière parfois très explicite. Surtout, peut-être, à l'époque, justement, shakespearienne. La gaillardise de Chaucer dans les contes de Canterbury annonce certains égards celle de Rabelais. Shakespeare sut mêler la poésie la plus subtile à la grivoiserie, on va pas dire la gauloiserie, ça ne marcherait pas, la plus grossière, comme dans Roméo et Juliette. Et le célèbre poète métaphysique John Donne, mais attention, il était catholique d'origine, je crois que ça explique certaines choses, composa des poèmes intensément érotiques, comme le célèbre « To his mistress going to bed » ou bien « La puce ». Ce misérable insecte sert de copule, à proprement parler, entre les deux amants. Voilà, vous avez le texte sous les yeux. « Observe cette puce et note combien peu de choses est-ce que tu me refuses. Ayant d'abord sucé mon sang, le tien ensuite, elle a mêlé nos sangs en elle. Tu sais qu'on ne saurait y voir honte ou péché, ni perte de virginité. Pourtant, sans prélude, elle jouit et s'enfle, gorgée de nos deux sangs réunis. Ceci, hélas, est plus que nous ne pourrions faire. » C'est superbe. Il en a écrit d'autres. Hein, et alors, sa poésie métaphysique, car il est avant tout connu pour sa poésie métaphysique, eh bien, justement, empreinte d'un certain érotisme, un peu comme chez Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix. Le roman anglais du XVIIIe siècle, profitant d'un assouplissement de la censure à l'époque de la Restauration de 1660, s'ingénia de multiples façons. S'ingénia de multiples façons à inscrire le sexe au cœur du récit. Deux romans de Faux, l'auteur de Robinson Crusoe, racontent l'histoire de prostituées, Moll Flanders et Roxana, mais sans décrire bien sûr les scènes érotiques. Fielding, très connu aussi pour son Joseph Andrews et Tom Jones, écrit sur la sexualité, mais sur un mode essentiellement comique, comme d'ailleurs Laurence Sterne, dont je citerai un passage un peu plus tard, dans son célèbre Tristram Shandy. Et Richardson, que dans le monde anglophone, on estime comme le fondateur du roman moderne, avec Pamela et Clarissa, écrit donc ces deux romans où des amants font l'assaut de jeunes filles, des amants très entreprenants, et ces jeunes filles sont très innocentes. Mais Richardson a eu recours à des ruses éditoriales, souvent maladroites, pour évoquer les vraies et fausses pudeurs des personnages. Là encore, j'étudie ça en détail dans un ouvrage. À côté de ces prestigieux romans appartenant au canon littéraire anglais, on trouve aussi bien sûr certains romans pornographiques, notamment le fameux Fanny Hill. Hein, c'est vraiment un des ouvrages les plus essentiels du canon pornographique, hein, écrit en 1748, la publié en 1748, c'est-à-dire la même année que Les bijoux indiscrets de Diderot. Nabokov évoque à plusieurs reprises d'ailleurs ce roman, tout comme d'ailleurs Tristram Shandy. Il était familier, Nabokov, de la littérature pornographique de l'époque. N'a-t-il pas calqué le nom de Charlotte Hayes dans Lolita sur celui d'une célèbre prostituée? J'avoue que quand j'ai découvert ça, j'étais ravi. Mais c'est grâce à Apollinaire que j'ai fait cette découverte. Justement parce que j'allais voir une traduction française de Fanny Hill du début du siècle, et elle était préfacée par Guillaume Apollinaire, une longue préface. Et qu'est-ce que je découvre là? Un long commentaire sur ce livre qui s'appelait à l'origine Nocturnal Revels, qui a été écrit en 1779 et qui décrit les diverses pratiques des prostituées de Londres. Charlotte Hayes était là. Et c'est grâce. Merci Guillaume Apollinaire. C'est lui qui nous a fait découvrir la source de ce nom. Le roman victorien, connu pour sa pudibonderie, s'est contenté pour l'essentiel de représenter la dimension sentimentale de l'amour, alors que se développait à côté clandestinement toute une littérature pornographique. L'Angleterre de la période victorienne a été très, très productive en littérature pornographique. Il y a des ouvrages, il y avait des revues, tout un tas de revues, comme il y en a une très célèbre qui s'appelait The Pearl, qui était spécialisée dans la diffusion d'œuvres érotiques et pornographiques. Il y a un brave monsieur Charles qui a publié un livre de 4000 pages. D'ailleurs, on l'a découvert en France grâce à Michel Foucault, hein, qui en a édité quelques passages. Ce monsieur qui a écrit Secret Life prétend que c'est son expérience personnelle. Je ne sais pas jusqu'à quel âge il a pu faire ce genre d'expérience, parce que vraiment, c'est très nourri. Et vous savez, comme disait Valérie, la sentimentalité et la pornographie sont sœurs jumelles. C'est Joyce, un Irlandais comme Sterne, qui, à l'entame du XXe siècle, a cherché à redonner à la sexualité le droit de cité dans un roman qui est devenu une icône de la littérature mondiale, Ulysse, un roman pour lequel Nabokov avait un immense respect. Moins cependant pour sa tonalité érotique que pour ses prouesses stylistiques. Joyce, contrairement à lui, ne cherche pas la plupart du temps à habiller les passages sexuellement explicites de formules poétiques. Il se contente, par exemple, de citer les fantasmes érotiques de ses personnages, comme lorsque Molly Bloom éclate de rire en voyant Ben Dallod dans son pantalon étroit avec, je cite, « sa boutique en montre ». Ou que Léopold observe la barmaid en train de... C'est la citation 2... La barmaid en train de manier le manche de la pompe à bière comme si elle caressait un sexe d'homme. En arrière, en avant, sur le manche poli, elle sent que ses yeux à lui, mes yeux à moi, ses yeux à elle. Son pouce et son index passaient pleins de pitié, passaient et repassaient, doux contact, puis glissaient en coulant tout doucement jusqu'en bas, et de leur anneau plein d'onction, un bâton émaillé, frais, ferme et blanc qui pointe. Nabokov aurait sans doute trouvé ça un peu trop flagrant, trop évident. Je suis sûr, il ne se serait jamais permis ce genre de choses. L'érotique de Bloom est aussi élémentaire que celle de la barmaid. Aucune métaphore hyperbolique, comme on en trouve par exemple dans les romans pornographiques. Aucune imagerie poétique non plus. Le chapitre 11, le fameux chapitre de Nausicaa, qui a été à l'origine du procès aux États-Unis en 1920. Vous savez que Joyce a écrit son roman sur plusieurs années et qu'il ne l'a terminé ici qu'une fois qu'il a eu signé le contrat avec Sylvia Beach et Darentière. Et donc la partie très érotique du chapitre 18, c'est-à-dire Pénélope, le dernier chapitre, il l'a écrite parce qu'il savait que son roman allait paraître à Paris. C'est très important de garder cela en tête. Bon, alors dans ce chapitre Nausicaa, qui est un long chapitre, il y a entre autres cette scène où la jeune Gertie et Léopold Bloom font pour ainsi dire l'amour à distance sur la plage. Je vous la fais défiler quand même un petit peu plus que ça. Voilà. Oui, mais oui, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il aurait mieux valu mettre sur la page. Parce que le dérouleur ne veut pas fonctionner, c'est surtout ça. Voilà. Elle se pencha en arrière davantage pour voir où éclatait le feu d'artifice et elle prit son genou dans ses mains pour ne pas tomber en arrière pendant qu'elle regardait. Et il n'y avait personne que lui et elle quand elle révéla ainsi toute la longueur gracieusement modelée de belles jambes comme ça, douces, sveltesses. Délicate rondeur, et lui semblait entendre les coups désordonnés de ce cœur mâle, son souffle rauque, car elle savait des choses sur les passions de cette sorte d'homme à tempérament excessif. L'ironie de toute cette scène, bien sûr, provient du fait que cette pauvre Gertie qui est en train de montrer ses jambes, elle est infirme, ce que Bloom ne découvrira qu'à la fin de la scène. Nabokov eut sans doute aussi évité d'évoquer ce feu d'artifice qui est censé représenter l'orgasme. C'est un petit peu grossier. Mais c'est dans la logique de ces deux personnages. Ceci ne reflète pas du tout, si vous voulez, la vulgarité de l'auteur, mais plutôt celle, la vulgarité des deux personnages impliqués. Le dernier chapitre du roman écrit, donc, je vous le disais tout de suite, après la signature du contrat, met en scène donc une femme vulgaire, pourvue d'un imaginaire érotique débridé. C'est quand même la plus longue méditation érotique d'une femme dans toute l'histoire de la littérature. Elle reconnaît donc... Molly reconnaît être victime de la censure. J'espère que c'est voilà. Voilà. Elle veut pas dérouler. Voilà. Pourquoi ne peut-on pas embrasser un homme sans l'épouser au début ? On aime quelques. Je prends ma lecture à moi parce que j'ai coupé mes phrases, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun point, aucune ponctuation, bien sûr, dans ce chapitre. Au début, on aime quelquefois ça éperdument. Quand on se sent comme ça, si ravi partout, on n'y résiste pas. Je voudrais quelquefois qu'un homme vienne me prendre quand il est là et m'embrasse dans ses bras. Il n'y a rien de tel qu'un baiser long et chaud qui vous coule jusqu'à l'âme. C'est passe, d'accord. Tout son monologue est en fait une sorte de pétition muette adressée à cette autorité diffuse qui, pense-t-elle, l'empêche de réaliser ses désirs les plus secrets. Elle se révolte aussi contre la nature qui soumet les femmes à un cycle lunaire et prend Dieu à témoin. Elle revendique sans cesse le droit au plaisir. Pourquoi, ma citation, pourquoi avons-nous été créés avec tous ces désirs, je vous le demande. Je n'y peux rien si je suis encore jeune, n'est-ce pas? C'est extraordinaire que je ne sois pas devenu un vieux chameau tout ridé avant mon temps, à force de vivre avec lui qui est si froid, qui ne m'embrasse jamais, excepté quelquefois quand il est endormi, au mauvais bout de moi. C'est assez amusant, ce mauvais bout de moi. Ça reprend justement un passage de Sterne dans Tristram Shandy. Molly Bloom n'est pas une femme perverse, seulement une femme frustrée. On comprend que la critique féministe se soit intéressée à ce roman. Le monologue de Molly contient en germe plusieurs de ses revendications. Joyce est peut-être le premier écrivain masculin à être parvenu à se mettre dans la peau d'une femme. Il y a là une forme de militantisme étrangère, bien sûr, à l'érotique de Nabokov. Ce chapitre vient clore le chapitre, donc 18, vient clore le roman. Comme si Joyce avait adopté à son insu la logique qui prévaut dans les romans pornographiques, dans lesquels, comme l'explique Nabokov dans sa postface à Lolita, décidément, voilà, les scènes dans les romans pornographiques, les scènes du livre doivent aller crescendo, être émaillées de nouvelles variations, de nouvelles combinaisons, de nouveaux sexes, avec un nombre sans cesse croissant de participants. Nabokov tenait à faire comprendre à tous ses lecteurs que Lolita n'avait rien à voir avec tout ça, ce qui est tout à fait vrai, parce que la partie la moins érotique de Lolita, c'est la seconde partie. Les scènes les plus érotiques de Lolita sont au début. L'érotique de Joyce est plus proche à certains égards de celle de Fanny Hill que de celle de Lolita, tout en étant plus grivoise dans nombre de passages que je n'ai pas évoqués ici. Joyce n'a pas cherché à écrire une histoire d'amour, ni à susciter le désir sexuel de son lecteur par des faux semblants, dont s'affuble quelquefois la sentimentalité. La pudeur est quasi absente de cet étonnant roman, comme sont absents par la même occasion les détours et esquives dont les romans sentimentaux se parent pour susciter le désir érotique du lecteur. Le juge Woolsey, qui a dû donc se prononcer en 1934 pour autoriser la parution de l'édition Random, la première édition, hein, le juge Woolsey, et c'était un type qui comprenait bien la littérature, et au bout du compte, il a demandé à deux lecteurs de décider si oui ou non ce roman était aphrodisiaque. Il a décidé qu'il n'était pas aphrodisiaque. Il pouvait être émétique, il pouvait faire vomir, mais il n'était pas aphrodisiaque. Et donc, il a autorisé le roman à apparaître. La littérature anglaise est demeurée longtemps marquée par l'atmosphère. Entre parenthèses, je me permets de le dire ici, parce que j'évoque une personne que j'aime bien, David Lodge. Quand j'ai préparé cette conférence, il connaît bien aussi la littérature anglaise, je lui ai dit, David, voilà ce que je vais te dire. Est-ce que tu pourrais me donner des suggestions? Donc, j'ai suivi un certain nombre de ces suggestions, mais donc, l'essentiel, c'était des gens dont je ne parle pas, comme Wycherley, comme Rochester, tout un tas de gens. Je ne les évoque pas ici. Bon, la littérature anglaise est demeurée longtemps marquée par l'atmosphère puritaine environnante, même quand un D.H. Lawrence militait pour en assouplir les rigueurs. Les écrivains anglais auraient, semble-t-il, pu souscrire pour la plupart à cette étonnante formule de bataille que vous connaissez certainement. Personne ne doute de la laideur de l'acte sexuel. Peut-être est-ce encore vrai d'un J.G. Ballard. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, Crash, dont Baudrillard a fait le panégyrique à un certain moment. Il est certes hasardeux de lancer de telles généralités, surtout en appuyant cela sur si peu de citations. Toutes ces généralités peuvent être contredites par des exemples contraires. C'est une tonalité dominante de la littérature anglaise et surtout du roman que je tente de pointer ici. Et donc j'ai aussi l'approbation, je dirais ici, de David en disant cela. Eros est souvent, pour l'écrivain anglais, un vilain garnement, quelque peu ridicule, qu'il faut mater ou faire taire. Herbert Marcuse, vous connaissez, prolongeant Marx, Freud et peut-être Max Weber, expliquerait que la sexualité implique une dépense d'énergie qui risque de détourner l'individu de sa mission première, à savoir produire des biens et de la richesse. Ambition fort enviable dans la patrie d'Adam Smith et Ricardo. Je me permets là, à ce propos, de citer un passage donc, de Tristram Shandy, pour peut-être un petit peu rendre plus palpable ce que je viens de dire, cette conclusion. Dans Tristram Shandy, à l'ouverture du roman, une ouverture très connue, ce personnage met 140 pages à naître, le personnage de Tristram Shandy. C'est un roman extraordinaire. L'homme d'affaires, le père de Tristram Shandy, est un homme d'affaires très régulier dans tout ce qu'il fait. Il est soucieux d'éviter toute dépense d'énergie inutile. Il a pris l'habitude de remonter la pendule familiale. D'ailleurs, c'était une invention toute récente, je vous signale à ce moment-là. Hein, de remonter la pendule familiale et de faire l'amour à sa femme. Je parle de la pendule à la maison. Hein, ça, c'était une invention assez récente. Remonter la pendule familiale et faire l'amour à sa femme le premier dimanche du mois, afin, dit l'oncle Toby, qui a toujours le mot juste, de se débarrasser de ses devoirs, je cite, en une seule fois, et d'éviter tout le reste du mois leur hantise importune. Je trouve ça absolument magnifique. Son épouse, qui ne peut désormais s'empêcher de faire le lien entre ces deux rituels, l'interrompt un dimanche soir, tandis qu'il est en train d'accomplir son devoir conjugal, et lui demande « Pardon, mon ami, n'avez-vous pas oublié de monter la pendule ?» provoquant l'ire et la déconfiture bien compréhensible de Shandy et déclenchant le rire du lecteur. Pas sur le coup d'ailleurs, parce que c'est plus tard que l'oncle Toby donne cette glose. Et donc il faut retourner en arrière pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi le père Shandy était furieux contre sa femme. Voilà, un exemple de cela, cet homme d'affaires, hein, le sexe, bon... Hein, c'est une tâche comme une autre, on remonte la pendule et puis on fait l'amour à sa femme. On ne va quand même pas réduire. Je ne suis pas en train de parler de l'érotique des Anglais, je suis en train de parler de l'érotique dans la littérature anglaise. J'espère que vous m'avez bien compris. Passons à l'érotique littéraire française. La littérature française prend généralement le sexe. La littérature française prend généralement le sexe et l'érotisme beaucoup trop au sérieux pour se permettre d'en rire. Là encore, on peut citer quelques exemples, quelques exceptions, dans Les bijoux indiscrets, justement, où les sexes loquaces des femmes se mettent à jacasser sur leurs pratiques passées. Le roman français, pour l'essentiel, ceci s'inscrit dans la tradition inaugurée par le roman courtois, dont le topos dominant est celui de l'adultère. Ce topos se retrouve accessoirement dans Ulysse, mais il est infiniment moins répandu dans la littérature anglaise que dans la littérature française. Le roman courtois distille un érotisme savamment poétisé, par exemple dans Flamenca, où l'on voit le jeune chevalier et sa dame faire assaut de stratégies érotiques raffinées à l'église, en présence du mari tyrannique. La jeune femme, enfermée le reste de la semaine dans sa tour par ce vieux ronchon de mari, nourrit des fantasmes érotiques et promet de s'abandonner à son amant. Voilà la citation. Il pourra me tenir toute nue quand il lui plaira, ou vêtue, je ne lui opposerai point de refus, car c'est tromperie et tricherie quand un ami sincère est frustré en ce qu'il cherche et désire le plus. C'est de là que naissent courroux, rancune, mauvaise pensée et soupçon, et le vilain mot folle et fâcheux qui s'appelle non. Évidemment, c'est écrit en occitan, donc c'est une traduction française moderne. Oui, vous n'aviez pas la fin de la citation, excusez-moi. Je vais vous en mettre deux tout de suite. Flamenca choisit de se soustraire à la loi sacrée du mariage qui la tient prisonnière de son vieux mari et de se livrer sans réserve ni mauvaise conscience à celle de son propre désir. On voit ainsi à l'aube de la littérature française une jeune femme revendiquer des droits analogues à ceux que revendique, certes plus crûment, Molly Bloom dans Ulysse. L'hédonisme et le libertinage apparaissent très tôt dans la littérature française sur un mode gaulois chez Rabelais, sur un mode infiniment sensuel et souvent très poétique chez Ronsard, Bellot, etc. Auteur à propos de qui Nabokov disait dans un texte, ça a été cité hier, et dans Mademoiselle O, qu'il sacrifierait tout le théâtre. Je répète cette phrase parce que j'y tiens beaucoup à cette phrase. Il sacrifierait tout le théâtre de Racine et Corneille pour un seul des vers de Ronsard. Vous vous rendez compte ? Il n'aimait pas la littérature classique, Nabokov. Il n'aimait pas Molière non plus. Il l'a dit dans son petit livre sur Gogol. Les romans pornographiques et libertins parus en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, et souvent écrits par des aristocrates ou des personnages proches du pouvoir, comme l'était d'ailleurs l'auteur des lettres portugaises, Guirag, ne sombrent pratiquement jamais dans la gauloiserie et la vulgarité, mais utilisent presque toujours un alibi esthétique pour représenter les scènes érotiques. Curieusement, les situations évoquées sont infiniment moins transgressives que dans les romans appartenant désormais au canon littéraire, comme « Liaison dangereuse » ou les romans du divin marquis.
La vulgarité, la cruauté et la violence en sont totalement absentes. On a le sentiment bien souvent de se trouver là en présence de manuels destinés à des jeunes gens en train de faire leur apprentissage de la sexualité. C'est cette littérature, entre autres, que les deux héros d'Ada, de Nabokov, parcourent avec délice à l'entame de leur incandescente idylle, chapitre qui suit donc leur première rencontre véritablement amoureuse. Le goût de l'écrivain français pour la transgression a longtemps été d'autant plus puissant que la censure institutionnelle à laquelle il se trouvait confronté était plus tyrannique. Flaubert, écrivain révéré par Nabokov, était conscient en écrivant Madame Bovary de prendre des risques, comme en témoigne toute sa correspondance avec Louise Collet en particulier. Il savait qu'il devait réaliser des prouesses d'écriture dans les scènes érotiques pour échapper à la vulgarité et contourner l'interdit, ce qui lui a plutôt bien réussi puisque le roman n'a pas été condamné, mais pour d'autres raisons en fait, comme je l'explique ailleurs. L'avocat impérial rendit hommage à son insu, à cette stratégie d'écriture, lorsqu'il déclara que le romancier montrait la poésie de l'adultère. C'est ce qu'il dit dans son réquisitoire. Il évoque à peine d'ailleurs dans son réquisitoire les scènes impliquant Charles, celle par exemple où celui-ci cherche sa cravache, c'est dans la première rencontre entre Charles et Emma, et il sent, je cite, sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille courbée sous lui. Alors là vraiment c'est une scène, l'avocat impérial n'a pas été offusqué par ça. Flaubert s'arrange pour érotiser son texte sans jamais avoir recours à des descriptions sexuellement explicites. Il ne décrit évidemment pas la nuit de noces, mais trouve le moyen d'évoquer la façon dont Charles a dû la vivre et les pensées lascives des invités. Il jubile d'avoir dépucelé gauchement sa jeune épouse, et Emma, elle, n'a manifestement éprouvé aucun plaisir et a beaucoup de peine à dissimuler son désenchantement. Sa première expérience érotique a lieu au château de Vaubuisard, lorsqu'elle danse la valse avec le comte dont le gilet, je cite, très ouvert, semblait moulé sur la poitrine. Elle en connaîtra d'autres, comme dans la scène de la saignée avec Rodolphe, première scène. La scène que stigmatise avec le plus de sévérité, bien sûr, Maître Pinard, l'avocat impérial, est celle qu'il qualifie de chute dans son réquisitoire. Et dans ses lettres, Flaubert l'appelle la baisade. Entre parenthèses, dans l'édition Connard, la première édition de la correspondance, le mot baisade avait disparu. La censure se met décidément partout. Emma, sentant le genou de Rodolphe, donc la fameuse scène avec Rodolphe, j'étudie un peu plus longuement cette scène et puis aussi les commentaires de Flaubert dans sa correspondance à ce propos. Emma, sentant le genou de Rodolphe lui frôler la jambe, est grisée par les couleurs de l'automne. Tout en attachant les chevaux, Rodolphe admire Emma, constate combien elle est embarrassée par sa robe trop longue, relevée par la queue, et contemple, je cite, là je n'ai pas donné cette citation, entre ce drap noir et la bottine noire, la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. La description poétique du visage d'Emma à travers son voile ne reflète pas son point de vue, cependant, mais celui d'un observateur impersonnel. On distinguait, son visage dans une transparence bleuâtre, comme si elle eût nagé sous des flots d'azur. Ce n'est pas le langage qu'utiliserait Rodolphe. On perçoit clairement ici la présence de l'auteur lui-même qui, de manière fantasmatique, assiste à la scène de la chute en voulant nous y faire assister. Rodolphe disparaît dans le passage décrivant le coït, supplanté qu'il est par l'auteur voyeur. Vous avez la citation. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit, retenez bien le mot, l'habit, elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillante tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Pas beaucoup de mots qui renvoient à une vision érotique des choses, et pourtant. Le seul indice métonymique de la présence de Rodolphe, c'est l'habit. Flaubert a délibérément cherché à éviter tout adjectif possessif, tout pronom personnel qui inscrirait cette vision érotique dans l'imaginaire grossier de ce débauché. Il s'est efforcé au contraire de décrire l'abandon voluptueux d'Emma et d'en donner une représentation poétique dans le paragraphe suivant où elle redevient un réflecteur à part entière. Ce n'est pas à l'étreinte de Rodolphe que s'abandonne Emma, mais à celle de l'auteur lui-même qui l'a conçue dans son imagination et prend ici la place de l'amant. C'est lui qui donne à la scène sa dimension poétique et prête à son héroïne une comparaison puissante qu'elle serait bien incapable de formuler. Je cite, elle sentait son cœur dont les battements recommençaient et le sang circulait dans sa chair comme un fleuve de lait. Elle non plus n'aurait pas pensé à cette comparaison. Rodolphe a été écarté depuis longtemps, occupé qu'il est à fumer son cigare et à raccommoder avec son canif une des deux brides cassées. Façon de montrer que la jouissance dont il est ici question est avant tout celle de la femme, le plaisir principal de Rodolphe ayant consisté surtout à la soumettre et à la posséder, à assister au spectacle de sa jouissance. On a le sentiment que Flaubert s'est servi de cet exécrable allié pour mettre en scène l'humiliant abandon, c'est le mot-clé, de la jeune femme à son désir d'auteur. L'image de ces colibris et de leurs plumes éparpillées signale que l'expérience possède de manière à peine ambiguë la dimension d'une perte. Cette scène a beaucoup, beaucoup inquiété Flaubert, qui revient à de nombreuses reprises dans sa lettre. C'est la citation 9, entre autres, à Louise Collet. « J'ai une baisade, c'est le mot qu'il utilise, qui m'inquiète fort et qu'il ne faudra pas biaiser. Quoi que je veuille faire chaste, c'est-à-dire littéraire, sans détail leste ni image licencieuse, il faudra que le luxurieux soit dans l'émotion. » On a le sentiment que la luxure... Excusez-moi pour ces petites opérations. On a le sentiment que la luxure fantasmée de la jeune femme est la sienne propre et qu'il veut la convertir en émotion poétique et érotique au bénéfice du lecteur. Ailleurs, il reconnaît avoir vécu pleinement en imagination la scène qu'il a composée. Citation 10. C'est incroyable ce passage. « Je suis à leur baisade, en plein, au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passée dans l'illusion complètement et depuis un bout jusqu'à l'autre. J'ai à présent de grandes douleurs dans les genoux, dans le dos et à la tête. Je suis comme un homme qui a trop foutu. » Partons de l'expression, il n'y a pas besoin de prendre d'excuses comme ça avec Louise Collet. Le texte du roman donne en effet l'impression que c'est l'auteur et non Rodolphe qui a fait l'amour à Emma, comme s'il avait voulu donner à cette jeune femme rêveuse et frustrée, assoiffée de poésie vulgaire, une merveilleuse expérience à la fois érotique et poétique dont elle garderait à jamais la nostalgie. Dans un canevas du roman, Flaubert est beaucoup plus explicite, montre nettement le geste de Rodolphe qui lui prend le cul d'une main et la taille de l'autre. Et elle s'abandonna. Il en vient toujours à ce mot-là. Vous vous rendez compte toute la charge. Il va essayer de mettre tout un tas de choses, il va gommer tout un tas de choses. Vous savez que Flaubert était quelqu'un qui écrivait, mais qui gommait énormément. Il disait à un certain moment qu'il était tellement rongé par les métaphores qu'il devait, il ressemblait à une Amazone qui devait se couper le sein pour bander l'arc. C'est-à-dire, lui, il devait faire disparaître les métaphores de son texte. Il y aurait, dans les canevas, il y a beaucoup plus d'images que dans le texte final. Il reprend d'ailleurs cette formulation dans un autre endroit, puis il l'a fait disparaître. Bon, je ne vais peut-être pas aller plus loin sur le détail dans ce qui concerne donc toutes les différentes phases de l'écriture de ce passage. Nabokov n'a rien dit des stratégies érotiques de Flaubert, lesquelles pourtant, à en juger par les nombreuses allusions qu'il fait à Madame Bovary dans ses autres romans, notamment dans Roi d'un ballet, Lolita et bien d'autres, l'ont touché et voire influencé. De toute évidence, il appréciait cette grande pudeur de Flaubert, ses stratégies poétiques visant à contourner l'interdit de la représentation en milieu en matière de sexe. Amoureux de Baudelaire, il n'a pas voulu non plus citer les poèmes qui avaient été censurés en 1857. Pas plus qu'il n'évoque dans son étude sur Proust les scènes érotiques comme celle où le jeune protagoniste luttant avec Gilberte pour récupérer sa lettre répand son plaisir, je cite, « comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort ». Il a nourri son imaginaire de tous ses auteurs, mais n'a jamais ouvertement reconnu ses affinités avec eux en matière d'érotisme, alors qu'elles semblent assez importantes. L'écrivain français, du moins avant les années 60, est plus épicurien que l'écrivain anglais ou irlandais. Il semble aussi moins disposé à tourner le sexe en ridicule. Son éminente pudeur, digne d'un mondain qui refuserait de perdre la face, je crois que c'est très important ça. Je crois que c'est cela. Le sexe risquerait, son aveu et sa description trop vulgaire pourraient nuire à votre bonne image. Ça engendre chez lui une recherche poétique qui lui permet d'entretenir ses désirs et ses fantasmes érotiques sans craindre de les mépriser. C'est vrai même du divin marquis qui drape les excès érotiques de ses personnages dans un épais manteau philosophique. Bon, passons donc au poérotisme poétique érotique de Nabokov. L'érotique de Nabokov est infiniment plus proche de celle de Flaubert que de celle de Joyce. Et pourtant, c'est dans le roman où il pastiche le plus Madame Bovary, Roi d'Âme Valet, roman paru 6 ans après Ulysse, qui se rapproche le plus de l'érotique joycienne. C'est le roman où les descriptions érotiques sont les plus explicites. C'est même quelquefois totalement vulgaire. Hein. Et Martha, curieusement, hein, peut-être avec le M, fait penser à Molly Bloom. On en est très proche. Nabokov avait lu donc le roman peu de temps après. Ailleurs, et notamment dans ses chefs-d'œuvre, Lolita et Ada, je ne vais parler que de ces deux-là, il pratique une érotique plus proche de celle des écrivains français, mais sur un mode beaucoup plus poétique, quelquefois aussi sur le mode un peu comique, notamment dans Ada. Lolita est peut-être l'un des romans les plus déroutants, les plus troublants du XXe siècle. Dans l'incessant va-et-vient entre la scène de l'écriture et celle du récit, Nabokov crée un texte incandescent qui aiguise puissamment le désir érotique et esthétique du lecteur, au point que celui-ci finit par se demander si l'auteur n'a pas réussi, de manière subtilement perverse, à faire de lui, le lecteur, le principal personnage du roman, en lui faisant endosser par coupable sympathie toute la charge de la transgression. Toujours cette impression en lisant Lolita. Je vais citer un long passage de Lolita, qui se trouve donc au début du roman. Ce passage ne se rapporte pas au rapport entre Humbert et Lolita, mais Humbert et Annabel Lee, ils sont tous les deux adolescents. Ce passage est absolument magnifique. Je cite. Ses jambes, il faut que je mette quand même, je vous le mette en entier quand même, si ça tient tout entier, ouais, presque, oui, ses jambes. Bon, je tâcherai de faire tourner. Ses jambes, ses jolies jambes ardentes, n'étaient pas trop serrées l'une contre l'autre. Et quand ma main trouva ce qu'elle cherchait, une expression rêveuse et troublante où se mêlaient plaisir et souffrance envahit. Je ne vais peut-être pas la citer en entier, puisqu'elle est longue et que le temps se raccourcit. Vous la lisez peut-être en m'écoutant. Et je vais plus loin. Ce passage est d'un niveau poétique élevé du début jusqu'à la fin. Le nom d'Annabel Lee est emprunté à un poème de Poe qui est évoqué à maintes reprises tout au long du roman. Le nom de famille d'Annabel et de Poe apparaît d'ailleurs dès la première page du roman. La scène se déroule un soir d'été dans un jardin de la Côte d'Azur. Le narrateur ne cherche pas à décrire en détail les ébats amoureux des deux adolescents, mais s'agenouille plutôt à nous faire percevoir l'intensité de leur émoi érotique. Un auteur pornographique aurait décrit les mouvements exploratoires du garçon avec minutie, focalisant tout le récit sur lui. Nabokov a renversé la perspective, en faisant d'Annabel le pôle érotique du texte. La scène commence par une évocation allitérative à propos de ses jambes. Her legs, her lovely live legs. Je n'ai pas, malheureusement, dans ma traduction, pas toujours pu reprendre ces allitérations. Où se lit, dans ces allitérations, en miroir, pour ainsi dire, le plaisir qu'éprouve le jeune Humbert à caresser ses jambes et Humbert adulte à se remémorer l'événement. Jambes accueillantes, mais pas trop. La pudeur d'Annabelle étant nécessaire pour contenir l'ardeur du jeune Humbert et permettre la progression poérotique de la scène. Cette érotique raffinée n'a que peu de choses à voir avec le fantasme freudien de la castration. Le vêtement n'est pas destiné à rendre érectile le corps féminin, ni même à représenter métonymiquement sous couvert de fétiche le sexe de la fille. Celui-ci n'est pas considéré comme le lieu d'un interdit, mais comme le terme somptueux d'une quête. Comme vient le confirmer la formule « ma main trouva ce qu'elle cherchait ». Le mot anatomique ou la métaphore hyperbolique à la Henry Miller, vous vous souvenez dans Henry Miller, cette formule, elle décrit le sexe de la femme comme « the unstitched wound », la blessure non suturée. Cela ferait pour lui basculer le texte dans une certaine vulgarité. Humbert, narrateur, évoque longuement, poétiquement, l'effet de ses caresses sur Annabel, partagée qu'elle est entre le plaisir et la douleur. Protagonistes et narrateurs font preuve de la même fascination devant les contorsions voluptueuses d'Annabel, tirant du don et du spectacle l'essentiel de leur excitation, si bien que le geste final n'a rien d'indécent, présenté ainsi comme l'offrande ultime que fait l'adolescent à cette vierge en extase. Aucune vulgarité dans la formule à la fois métaphorique et métonymique, le sceptre de ma passion. Mais plutôt une sorte d'apothéose poétique. Le passage le plus érotique de tout le roman est celui où Humbert raconte la scène du dimanche matin sur le divan du salon. Ici, le narrateur prend quelques précautions Là, je vous en mets deux pour le prix d'un. Le narrateur prend quelques précautions et sollicite non seulement la compréhension du lecteur, mais aussi sa participation. Je tiens à ce que mes doctes lecteurs participent à la scène que je suis sur le point de rejouer. J'aimerais qu'ils l'examinent dans ses moindres détails et jugent par eux-mêmes, ce passage très connu, hein, combien cet événement, aussi capiteux qu'un vin, demeure sage et chaste, à la condition qu'on le considère avec une sympathie impartiale. Supplication quelque peu feinte par laquelle Humbert narrateur dit connaître le désir du lecteur en tant que voyeur et prétend s'assurer ainsi de son indulgence, sinon de sa complicité. La gêne qu'évoque ce passage n'est pas tant celle qu'a éprouvée le protagoniste dans le temps de l'histoire que celle qui tourmente le narrateur dans le temps de l'écriture face à son imprévisible lecteur. Car il y a bien sûr une différence considérable, on a soulevé ce problème hier, il y a une différence considérable entre cette scène qui implique un homme de 37 ans et une gamine de 12 ans et celle où deux adolescents se livraient à des jeux érotiques bien de leur âge. Humbert narrateur prend la précaution de se désolidariser de Humbert protagoniste en le présentant comme un personnage de théâtre passablement grotesque, personnage principal, Humbert le fredonneur. Lolita est elle-même décrite comme un personnage de théâtre quelque peu vulgaire. Je cite, citation 15, « Ce jour-là, elle portait une jolie robe en tissu imprimé que j'avais déjà vue une fois sur elle. Jupe ample, corsage moulant, manches courtes, rose, carreau d'un rose plus sombre. Et pour compléter cette harmonie de couleurs, elle s'était fardée les lèvres et tenait dans la coupe de ses mains une pomme d'un rouge édénique. Jamais Ada n'aura la vulgarité d'accumuler sur elle ses clichés vestimentaires. » Lolita est une jeune américaine racoleuse qui multiplie à l'envi les signes érotiques sur sa personne à seule fin de se rendre désirable. Un peu à la façon dont sa mère décorait tapageusement et sans goût tous les recoins de sa maison avec un bric-à-brac faussement exotique. Humbert, tout esthète qu'il prétende être, affectionne en fait ce genre de vulgarité, il le dit. Il doit y avoir un brin de vulgarité dans les nymphettes qu'il désire. Et Lolita semble intuitivement l'avoir compris. C'est ça qui est extraordinaire. Non seulement lui, il désire ce élément vulgarité, mais elle le comprend assez bien, comme Goethe comprenait très bien aussi Bloom dans la scène que j'ai citée tout à l'heure. Nymphette, elle assume d'emblée le rôle de la tentatrice, Ève au paradis terrestre, avec cette pomme qui fait l'objet d'un premier échange érotique. Elle la lance en l'air comme si elle jonglait. Humbert la rattrape et elle le supplie de la lui rendre. J'exhibais, délicieuse, elle en saisit et mordit dedans. Et elle s'en saisit et mordit dedans, et mon cœur était comme neige sous une mince peau écarlate. La photo qu'elle montre à Humbert dans un magazine prolonge sa grossière stratégie de séduction. C'est la citation 16. Un peintre, que vous allez sans doute reconnaître, un peintre surréaliste, on a parlé d'ailleurs de ce peintre hier. Un peintre surréaliste en train de se reposer sur une plage, étendu de tout son long sur le dos, et près de lui, dans la même position, une réplique en plâtre de la Vénus de Milo à demi enfouie dans le sable. Il y a du Magritte, il y a plusieurs tableaux de Magritte, j'en ai parlé ailleurs. Tout ce que fait Lolita, vous voyez, c'est essayer d'aguicher véritablement Humbert. Elle va plus loin, après c'est toute cette scène concernant la photo. Elle s'allonge sur le divan et étend ses jambes sur les genoux de Humbert. Attention, je ne suis pas en train de dire que Humbert fait ce qu'il faut. Un des grands spécialistes de Nabokov, Alfred Appel, qui a été son étudiant aussi à Cornell, disait dans un article plus récent, dans les années 60, quand je faisais cours sur Lolita, je devais rappeler à mes étudiants que ce que fait Humbert n'est pas bien. Inutile de vous dire que dans les années 90, on n'avait plus besoin de le rappeler. Et si le second roman, le second film sur Lolita, celui d'Adrian Lyne, a eu tant de difficultés à être diffusé aux États-Unis, c'est bien parce que justement, les choses avaient bien changé. À ce moment-là, effectivement, les problèmes de pédophilie, pédérastie étaient fort connus. J'insiste là-dessus. Cela n'empêche, et je crois qu'il faut le reconnaître, que Lolita, effectivement, connaît tellement bien le désir de Humbert qu'elle fait tout ce qu'il faut pour le satisfaire. On remarquera avec quel talent Nabokov a su peu à peu substituer aux clichés déployés par Lolita sur sa personne et autour d'elle des jeux subtils d'images superposées, marquant ainsi l'écart entre la nymphette vulgaire et la racoleuse et le praticien avisé en art érotica. Plus s'accroît l'émoi de Humbert dans cette scène et plus le texte devient poétique. Dans les deux citations, la citation suivante, « Assis là sur le canapé, je parvins, suite à une série de manœuvres furtives, à accorder mon désir masqué au mouvement de ses membres candides. » Vous voyez, il a toujours recours à des images qui sont très efficaces. Il ne cherche pas à composer des métaphores luxueuses, hyperboliques ou burlesques, comme pourrait le faire un auteur de romans pornographiques. Il préfère un mot abstrait, le mot « lust », qui n'a pas véritablement son équivalent tel quel en français, désigne une expérience terriblement concrète, mot qui a l'avantage de s'insérer dans une suite allitérative annoncée dans le mot « delicious » pour la pomme. Et le mot « lust » a d'ailleurs une étymologie amusante. Il vient d'un mot de vieil anglais signifiant « peau », la peau. L'escalade poétique accompagnant la montée du plaisir chez Humbert, protagoniste, se poursuit dans les lignes suivantes. Et le « masked lust » devient la tumeur cachée d'une passion indicible. Humbert n'est plus Humbert le roquet, ce corneau aux yeux tristes et traînant la botte qui allait bientôt le flanquer dehors, mais un Turc robuste et radieux, je cite, pleinement conscient de sa liberté. Il s'estime désormais affranchi de toute loi et de toute censure. Et c'est ce qui va expliquer le ton, la tonalité de la description de l'orgasme proprement dit, c'est-à-dire la citation 18. Au moment de représenter l'orgasme, le narrateur s'efface devant le protagoniste, lequel prend alors à partie les jurés qui auront à le juger, non pas pour avoir séduit Lolita, comme vous le savez, mais pour avoir assassiné Quilty. Donc je cite, « Et alors, messieurs du jury, ma bouche gémissante toucha presque son cou, nu, tandis que j'écrasais contre sa fesse gauche le dernier spasme de l'extase la plus longue qu'ait connu homme ou monstre. » On sait que plus tard, il se montrera très sévère pour lui-même. Ici, il ne s'accuse pas, je parle de Humbert, je ne parle pas de Nabokov, il ne s'accuse pas et ne fait pas amende honorable, mais proclame avec jubilation le caractère inouï et donc non justiciable de notre morale traditionnelle, de son expérience sexuelle. Le mot monstre n'implique pas un début de repentir, il indique seulement que Humbert, à ce moment précis, a le sentiment de s'être totalement abstrait de la loi humaine et d'avoir accompli l'acte érotique ultime. Certes, il cherchera ensuite à se justifier sur le plan éthique et à se convaincre qu'il n'a pas souillé, je cite, le sac à main blanc tout neuf d'une jeune demoiselle. Mais il sait maintenant, en tant que narrateur, que l'intensité de son plaisir était à la mesure de la souillure qu'il infligeait à Lolita. L'impersonnalité que cherchait à accomplir Flaubert se trouve ici parfaitement réalisée dans cette incessante confusion des rôles, non seulement entre le protagoniste et son double narrateur, mais aussi entre l'auteur dont la figure désirante et poétisante apparaît en filigrane dans ce passage, et avec, bien sûr, la complicité du lecteur. Ronsard et Baudelaire ne sont pas très loin ici. Le poérotisme d'Ada est encore plus flagrant et peut-être plus intense encore. Mais alors, ce roman est infiniment moins dérangeant que Lolita. Roman paru en 1969, à la fin des années 60, toute l'atmosphère était infiniment plus permissive. Les verrous de la censure, les principaux verrous de la censure, il y a toujours de la censure, elle n'a jamais totalement disparu, c'est évident. Mais pour ce genre de fiction, ces verrous, ils avaient sauté. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le ton plus humoristique de ce roman. Le poérotisme d'Ada, donc, est moins dérangeant que celui de Lolita. Il est teinté d'humour, dépourvu de tragique. L'élément tragique est apporté par un personnage, par le rapport aussi entre Van et ce personnage. Je veux parler du personnage de Lucette. Je me penche assez rapidement sur le fameux chapitre 19, où tous les deux, 12 ans et 14 ans respectivement, ils font l'expérience sexuelle, disons, la plus intense peut-être du roman. Une scène qui est annoncée par un appel à « au feu », c'est Madame Larivière peut-être, la gouvernante, au feu. Je crois que le mot « feu » en français, je pense que là il y a une petite référence au feu de la passion à l'époque classique en France. Je suis sûr qu'il y a ce type de référence. Mais Van, lui, au lieu d'aller éteindre l'incendie des granges, eh bien, il va dans la bibliothèque et il va regarder ça de loin à travers la fenêtre. Et il voit arriver, donc on l'imagine devant cette fenêtre, elle est extraordinaire, cette fenêtre. On a le feu de l'autre côté, et puis on va voir arriver Ada. Elle va arriver avec une bougie, une chandelle, et il la voit arriver devant lui, puisqu'il la voit par réflexion dans la fenêtre. Et ce n'est pas la fin de cette fenêtre, hein, je n'ai pas développé la chose, mais à un certain moment, il a l'impression qu'il y a eu un flash ou je ne sais trop quoi. En fait, il y a un photographe de l'autre côté, il y a un des domestiques qui a pris une photo. D'ailleurs, on ne la verra pas dans l'album photo. Cette photo-là ne figurera pas. Ça ne devait pas pouvoir réussir à travers la vitre. Ce n'était pas possible. Mais n'empêche que cette photo... La multiplication des points de vue, c'est absolument extraordinaire. Alors, je cite ce passage. Alors là, donc, Van n'a qu'une robe de chambre et puis qui va s'ouvrir. Et Ada va participer très activement à cette scène. Je cite. Je vous la ferai circuler quand même totalement, cette citation. Là encore, je ne vais peut-être pas la citer en entier. « Je voudrais te demander, dit-elle très distinctement cette fois, et pourtant déjà hors d'elle-même, parce que la main voyageuse était remontée jusqu'au creux de son bras et que le pouce qui venait de se poser sur une mamelette lui donnait des picotements au palais, etc. etc. » Te demander, demande, s'écria Van, hein, c'est la suite du passage, demande. Mais ne gâche pas tout, c'est-à-dire ne m'empêche pas de me nourrir de toi, de me tordre contre toi. Alors pourquoi me demanda-t-elle, exigea-t-elle, somma-t-elle, cependant qu'une... N'oublions pas que pendant toute cette partie-là de la scène, il y a un dialogue entre les deux personnages. En tant que narrateur, ils sont en train de rédiger cette scène, tous les deux. Ils sont proches de 100 ans, tous les deux. Je crois qu'ils sont en train de revivre par l'écriture ou de faire revivre pour eux-mêmes et pour nous la scène qu'ils ont vécue il y a près d'un siècle. Voilà. Oula, quand je quoi, etc. Hein, donc les deux vieillards, sans doute un peu impuissants, trouvent un regain d'ardeur en se souvenant et en écrivant. Ce n'est pas l'interdit de l'inceste. N'oublions pas que ces deux personnages, ils sont frères et sœurs. Même si au début... On ne le sait pas. Et beaucoup de lecteurs, je pense, ont lu ce roman sans s'en rendre compte, parce que il faut être très attentif pour s'en rendre compte. Voilà, la scène se poursuit. La citation 20. « Mon Dieu, murmura-t-elle, comme un enfant qui parle à un enfant, c'est écorché complètement à vif. Ça te fait mal? Dis horriblement mal? » Je supplia, « Touche vite, Van, pauvre Van, etc. etc. » Toute la scène... Vous pouvez la lire. Là encore, Nabokov prend soin de ne pas utiliser des mots possédant un contenu sémantique pour désigner le pénis en érection. Il préfère ce « ça » neutre, hein, on dirait un déictique, hein, pour les linguistes, qui fait voir la chose. Hein. Frege parlerait de « bedeutung », hein, par opposition à « sinn », hein, montrer plutôt que donner le sens. Non seulement l'objet, mais aussi et surtout l'embarras touchant et excitant à la fois d'Ada qui évite au lecteur d'éprouver cette gêne qu'eût provoqué l'usage d'un terme anatomique ou métaphorique. Ada prend cependant peu à peu de l'assurance, révélant ainsi que son ignorance était sans doute feinte, et elle se lance dans une amusante description géographique et botanique, là encore, ça c'est assez incroyable. Carte en relief, dit la mignonne, etc. Bon, vous avez la citation sous les yeux. Les métaphores décrivant le pénis ne sont pas produites par le narrateur, mais par la jeune Ada, qui en naturaliste avisé, car elle est très spécialiste des papillons et connaît bien le monde des papillons, fait semblant de demeurer étrangère à la dimension érotique de la scène. Le rire contenu que déclenche ce dialogue chez le lecteur n'en réduit en rien la dimension érotique. C'est un rire érotique et esthétique à la fois qui marque notre jubilation de voir une fillette de 12 ans s'exprimer ainsi et l'auteur contourner l'interdit de la représentation du sexe mâle de si plaisante façon. Rien à voir bien sûr avec ces scènes d'Ulysse où était évoqué le sexe masculin sur un ton frisant souvent l'obscénité. Et les romanciers français n'ont jamais fait non plus un emploi aussi subtil de l'humour dans les scènes érotiques, à ma connaissance du moins. Nabokov demeure cependant plus proche de Flaubert que de Joyce. Malgré tout, il pratique une érotique subtile où une pudeur raffinée se voile de métaphores poétiques et où le tragique inhérent à la transgression ne fait retour dans le récit qu'à travers donc, tous les événements liés à Lucette. Je note aussi, et je l'ai noté dans le roman Nabokov ou La Tentation française, que les mots français qu'il utilise, il y a énormément de mots français, on en a parlé longuement pendant ces deux jours de colloque, il y a énormément de mots qui effectivement participent à cette atmosphère érotique de ces romans. Il y a tout un tas de mots, je citais le mot plaisir hier, Nabokov disait le mot plaisir en français a une richesse érotique extraordinaire par rapport au mot pleasure. C'est plat en anglais. Plaisir, on a l'impression que c'est un mot qui... d'abord, il rime avec désir, et c'est un mot qui se prolonge, on peut dire. Il se prolonge. Voilà, donc je vais conclure. Je suis resté à peu près dans les... un petit peu long quand même, ça va? Ça va? Je suis bien. Les stratégies utilisées par Nabokov pour déjouer l'interdit frappant la représentation du sexe en milieu romanesque ne sont pas de simples trompe-l'œil. On l'a prétendu à certains moments. Je vous signale que cette dimension de l'œuvre nabokovienne, longtemps, on a fait comme si ça n'était pas là, surtout du vivant de l'auteur. Parce que Nabokov disait qu'il ne fallait pas s'intéresser au sexe, de même qu'il ne fallait surtout pas faire de psychanalyse. Et les lecteurs de Nabokov et les spécialistes ont souvent été terrorisés par l'autoritarisme, la dictature Nabokov. Nabokov s'est prétendu dictateur, hein, c'est un mot fort. Le désir érotique et poétique de l'auteur et du lecteur se croisent et se nourrissent l'un de l'autre dans l'échange passionnel qui lie le destin de ces deux sujets désirants. C'est peut-être cette complicité assumée dans le désir partagé qui rattache la pratique de Nabokov à celle des écrivains français. Le désir, cette manifestation de notre manque à être, comme disait Lacan, est reconnu comme étant de nature ontologique par l'écrivain français, y compris dans sa dimension érotique. Alors que pour l'écrivain anglais ou irlandais, Joyce, il a tendance à passer pour une faiblesse passagère et quelque peu ridicule dont il y a lieu de rougir, mais qu'il convient de ne pas trop prendre au sérieux. Je reconnais encore le caractère trop catégorique de cette proposition. Mais il me semble qu'il y a là une piste importante que je laisse à d'autres, à tous mes jeunes collègues, le soin peut-être d'explorer. Ils seraient plus savants aussi que moi, j'en suis sûr. J'ouvre seulement un débat et refuse de conclure, conscient à l'avance que certaines de mes analyses susciteront la polémique et me valent déjà sans doute les rires un peu dédaigneux de Nabokov, je l'entends glousser derrière moi, ne supporte pas que j'utilise le mot « écriture » ou fasse référence à la psychanalyse, et qui me reproche certainement de chercher à avoir accès à son propre désir, ce que je me garde bien de faire pourtant, même dans l'ouvrage où j'examine en termes psychanalytiques la cruauté du désir de ces personnages. Peut-être l'ai-je réinventé de toute pièce en voulant recréer la figure auctoriale que je voyais se profiler dans ses œuvres. Moi qui, après avoir omis de lui rendre visite à l'époque où nous étions quasi voisins, ai défendu sur lui une thèse structuraliste devant celui qui en 69 croyait encore, mais pas pour longtemps, heureusement, que c'est le langage qui parle, ce n'est pas l'auteur, citant Mallarmé, je parle de Roland Barthes. 15 ans après son décès, j'eus l'outrecuidance. J'ai souvent évoqué cette scène, mais bon, c'est à mes dépens, mais qu'en partie. 15 ans après son décès, j'eus l'outrecuidance et la balourdise de l'inviter par fax à un colloque, comme celui-ci, alors que c'était son fils Dimitri, lequel l'a récemment rejoint sur Antitera, que je souhaitais solliciter. Preuve, s'il en fallait encore, qu'il a su engendrer chez moi des désirs puissants, et sans doute bien français, désirs de le contrer, certes, mais surtout désir d'écrire, de vivre en sa compagnie de grands moments de complicité esthétique et aussi de partager avec d'autres cette griserie et ces éblouissements que seuls savent nous prodiguer les plus grands génies de la littérature. Merci.
On a le temps pour une ou deux questions, parce qu'on est déjà un peu tard, donc je vais prendre les premières mains qui se lèvent.
Merci beaucoup pour votre présentation extrêmement extrêmement riche. J'aimerais vous poser une question en tant que, pas seulement nabokovien, mais traducteur de Nabokov. Vous avez parlé de la scène du dimanche matin. Et il se trouve que j'ai un peu analysé les traductions, enfin l'ancienne et la vôtre, de ce passage. Et j'ai eu l'impression que dans ce passage, vous aviez en fait un peu plus explicité le côté sexuel de la scène, avec par exemple, tandis qu'elle bandait son corps, ou la moindre pression allait suffire à donner le branle au paradis, ou il attendait le moment de jouir enfin de la plus jeune de ses esclaves. Et je me demandais si c'était une compensation par rapport à... Vous disiez qu'il y a beaucoup d'aspects poétiques de la langue, les allitérations que vous n'avez pas pu traduire. Est-ce que c'était une compensation ou est-ce que vous avez voulu expliciter des choses du texte ?
C'est une bonne question. C'est les deux choses à la fois. Mais il y a surtout une réaction par rapport à la traduction de Girodias, qui avait des qualités, bon, même si c'était bourré de contre-sens. On n'est jamais dépourvu de faire... On fait des erreurs dans toutes les traductions, ça c'est évident. Hein. Et la mienne, j'ai déjà corrigé deux fois et je suis sûr qu'il y a encore des corrections à faire. Mais la traduction de Kahane était une traduction où la partie érotique était au contraire minorée. Hein. Elle était absente. Donc, quelquefois, oui, effectivement, par ces mots-là, les mots particulièrement ceux que vous venez de citer, mais les mots utilisés par Nabokov sont quand même assez explicites dans la circonstance. Mais vous avez raison, il y a une part de compensation. Et je crois que c'est aussi peut-être en réaction contre justement le fait que, peut-être surtout d'ailleurs dans le monde anglophone, on a voulu minorer toute cette dimension érotique de la... Mais c'est une bonne question. Et effectivement, on peut disserter sur cela. Hein. Ouais. Merci. Géraldine ?
Non, excusez-moi, il y a une question.
Pardon.
Ici, le micro est ici.
Allez.
Marie. Maurice, thank you very much for your wonderful talk. Are you aware of the award for bad sex writing that we have in the UK?
Yes, yeah. it's actually... Thank you for asking that question. Last week, I had a phone call from David Lodge, and he's the one who told me about it. It's amazing. Do you realize that? In England, they have... Tell us about it, Will.
I don't want to use up too much time, but it's leading up to a question, which is, do you sense any interesting turn towards the comic in some of those words that Nabokov uses when he's observing the taboo on mentioning the male member or the genitalia, like the scepter of my passion? Perhaps it's a British thing particularly, but I find that extremely funny. And it's something about writing about eroticism that can turn from sexuality to comedy very, very quickly. And I wondered if that's something that you've thought about in your translation or in your work on eroticism.
In a way, you're right. I was hoping you would say more about that manifestation in England.
Maurice, est-ce que vous pourriez traduire rapidement vos échanges pour ceux qui ne parlent pas anglais dans la salle?
Ah oui, pardon. Oui, Will pourrait le dire en français. Il a un excellent français.
Mais je pense qu'il a compris.
Je préfère lui donner le...
Parlez en français si vous voulez.
Oui, parlez en français, c'est ce que vous venez de dire. Hein? Il était en train de me demander si effectivement il n'y aurait pas peut-être une référence aux pratiques dans le monde anglophone et en Angleterre en particulier dans le domaine de l'érotique et du comique de l'érotique, que chez Nabokov on retrouverait un peu de cela. Je ne suis pas sûr qu'il ait en tête. Quand j'ai discuté de ça avec David, il m'a dit oui, grosso modo, nous chez nous c'est quand même un petit peu trop comique la sexualité. Nabokov ne cherche pas à le faire. La scène que je vous ai analysée très brièvement tirée de Dada est assez exceptionnelle. La partie comique en ce qui concerne la sexualité, c'est lorsque, par exemple, Humbert, dans la deuxième partie du roman, est victime de son désir d'une certaine manière et se comporte comme un plouc. Et alors Lolita se fiche de lui, littéralement. Et on se moque lorsqu'il se compare à un tiroir-caisse, plus ou moins, vous savez, parce qu'il doit payer ses services sexuels. Et il a l'impression de sortir les pièces comme ça. C'est véritablement à ses dépens. Et ce n'est certainement pas pour érotiser la scène dans la circonstance.
Une dernière question.
Non,
C'était juste pour rebondir sur cette question du comique. Justement, dans ma première communication, The Sexual Crux in Nabokov's Latest Novels, j'avais évoqué certains exemples, par exemple dans Look at the Harlequins. On a vu, d'ailleurs, ça avait été cité hier, par Julie, je pense, hein, c'est juste toi qui l'avais cité, où on voit que les attentes érotiques sont déjouées par, justement, une approche grotesque. Du sexe, donc là dans la citation c'était par exemple The Bloody and Thrashing Fish, donc le sexe est tourné en ridicule. Ça peut être un élément de réponse.
Tout à fait, oui.
Parce qu'en fait il privilégie beaucoup la parodie en fin de carrière, ça participe de cette tournant vers la parodie.
Surtout on voit que ça pointait dans l'original de Laura. Dans l'original de Laura, la partie sexuelle, elle est d'une grossièreté, d'une obscénité incroyable. Je ne sais pas quel genre de roman serait donné. Géraldine, encore une
question ? Oui, j'aurais aimé vous demander s'il y a dans Nabokov un érotisme partagé, heureux, épanoui, qui ne soit pas transgressif. Qui ne soit pas lié à l'inceste, qui ne soit pas lié à l'inceste symbolique, qui soit hors de la perversion.
Il y a peu d'exemples, parce que je ne sais pas si quelqu'un pourrait penser, là, dans mon prochain bouquin, je crois que je parle un petit peu de ça, mais c'est vrai que je n'ai pas... d'une certaine manière, tout ce qui touche à la phanicis, c'est-à-dire à cette partie en ce qui concerne la défense lugine, hein, le fait qu'il n'y ait pas du tout de scène sexuelle, il y a malgré tout des signes de désir, qui est proche du désir sexuel d'un joueur de piano d'une part, ou bien un joueur d'échecs, etc. Là, évidemment, il n'est pas question de transgression, mais il n'est pas non plus question de sexualité. Hein? Voilà, donc, je ne sais pas si... Bon, on peut peut-être s'arrêter là, mais je tenais simplement pour conclure, remercier très officiellement ici, pour mon propre compte, je suis modestement le président d'honneur de cette association, elles m'ont fait cet honneur, tout simplement, étant le plus ancien dans ces études nabokoviennes, puisque j'ai passé plus de 40 ans de ma vie là-dessus. Mais je tenais à remercier Lara et toute l'équipe, Monica, Yannick, Agnès, entre parenthèses. Je tiens à dire ce que j'aurais dû dire hier, que c'est Agnès qui m'a procuré le texte, donc le premier texte écrit par Nabokov en français, et que j'ai donc réédité avec l'autorisation de Dimitri dans la tentation française l'an dernier. Je tiens donc à remercier toutes ces jeunes collègues dynamiques qui ont fait un travail assez extraordinaire pendant tous ces jours et se sont donné beaucoup de peine. Surtout, bon, j'ai organisé 3 colloques, mais à chaque fois je les ai implantés dans un endroit avec un public limité de spécialistes. Je ne voulais pas me donner toute cette peine, mais je trouve qu'elles se sont donné beaucoup de peine et elles ont tout à fait bien réussi. Et je tiens véritablement à les remercier et à les féliciter.
Avant de vous donner rendez-vous pour la suite du programme à 14h, je crois que Lara a un petit mot à vous dire pour une annonce.
Oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc dans la lignée en fait des missions de la société, qui est aussi de promouvoir l'œuvre de Nabokov vis-à-vis d'un plus grand public, c'était aussi l'objectif en situant la troisième journée ici à la BPI. Donc dans la lignée de cette mission, on a réédité le texte de Mademoiselle O, et en collaboration avec Alexandra Love qui est ici. Peut-être que tu veux te lever juste pour qu'on te reconnaisse. Voilà, qui a merci Alexandra. Non, sous forme de carte postale. Donc c'est, il y a un symbolique de faire essaimer le texte de Nabokov. Et donc c'est Alexandra pourra vous en parler si vous allez la voir. Elle pourra vous expliquer comment obtenir ces cartes postales pour un prix assez modique vu le travail qu'on a mis dedans. Et c'est un projet artistique, bien sûr, puisqu'Alexandra est artiste. Voilà. Ces cartes postales seront en vente, notamment au banquet ce soir. Je sais que vous n'allez pas tous y aller, mais beaucoup d'entre vous y seront. Et elles sont en vente à la librairie Flammarion, au centre Pompidou. Et donc le banquet de ce soir sera au Pharamon. Je crois que nous ne l'avions pas marqué dans le programme. C'est au Pharamon, c'est rue de la Truanderie. Je ne suis pas exact. Pardon ? Grande Truanderie, excusez-moi Sylvain, merci. Rue de la Grande Truanderie, ça se trouve tout près du centre Pompidou. Hein, voilà.
Merci Monsieur Couturier, merci pour la belle conférence surtout. Et donc je vous donne rendez-vous à 14h, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour déjeuner, pour la première table ronde qui sera sur les rapports directement culturels entre Nabokov et la France, Nabokov revisité de Gainsbourg à Debord. À tout à l'heure.